Arrivés rue Saint-Fiacre, ils montèrent ensemble à la mansarde où se faisait le journal. Et Lucien fut aussi surpris que ravi de voir l'espèce de joie avec laquelle ses camarades convinrent de démolir le livre de Nathan. Hector Merlin prit un carré de papier et il écrivit ces lignes qu'il alla porter à son journal. On annonce une seconde édition du livre de Monsieur Nathan. Nous comptions garder le silence sur cet ouvrage, mais cette apparence de succès nous oblige à publier un article, moins sur l'œuvre que sur la tendance de la jeune littérature. En tête des plaisanteries pour le numéro du lendemain, Lousteau mit cette phrase. Le libraire Doria publie une seconde édition du livre de Monsieur Nathan. Il ne connaît donc pas le proverbe du palais. Non bis in idem, honneur au courage malheureux. Les paroles d'Étienne avaient été comme un flambeau pour Lucien, à qui le désir de se venger de Doria tint un lieu de conscience et d'aspiration. 3 jours après, pendant lesquels il ne sortit pas de la chambre de Coralie où il travaillait au coin du feu, servi par Bérénice et caressé dans ses moments de lassitude par l'attentive et silencieuse Coralie, Lucien mit au net un article critique d'environ 3 colonnes, où il s'était élevé à une hauteur surprenante. Il courut au journal, il était 9 heures du soir. Il y trouva les rédacteurs et leur lut son travail. Il fut écouté sérieusement. Félicien ne dit pas un mot. Il prit le manuscrit et dégringola les escaliers. « Que lui prend-il ? » s'écria Lucien. « Il porte ton article à l'imprimerie, » dit Hector Merlin. « C'est un chef-d'œuvre où il n'y a ni un mot à retrancher, ni une ligne à ajouter. »« Il ne faut que te montrer le chemin, » dit Lousteau. « Je voudrais voir la mine que fera Nathan demain en lisant cela, » dit un autre rédacteur sous la figure duquel éclatait une douce satisfaction. « Il faut être votre ami, » dit Hector Merlin. « C'est donc bien ?» demanda vivement Lucien. « Blondet et Vignon s'en trouveront mal, » dit Lousteau. « Voici, » reprit Lucien, « un petit article que j'ai broché pour vous et qui peut, en cas de succès, fournir une série de compositions semblables. »« Lisez-nous cela, » dit Lousteau. Lucien leur lut alors un de ces délicieux articles qui firent la fortune de ce petit journal, et où en 2 colonnes il peignait un des menus détails de la vie parisienne. Une figure, un type, un événement normal ou quelque singularité. Cet échantillon, intitulé « Les passants de Paris », était décrit dans cette manière neuve et originale où la pensée résultait du choc des mots, où le cliquetis des adverbes et des adjectifs réveillait l'attention. Cet article était aussi différent de l'article grave et profond sur Nathan, que les lettres persanes diffèrent de l'esprit des lois. « Tu es né journaliste, lui dit Lousteau. Cela passera demain, fais-en tant que tu voudras. » « Ah ça, dit Merlin, Doria est furieux des 2 obus que nous avons lancés dans son magasin. Je viens de chez lui. » Il fulminait les imprécations. Il s'emportait contre Finot qui lui disait avoir vendu son journal. Moi, je lui pris à part et lui ai coulé ces mots dans l'oreille. « Les marguerites vous coûteront cher. » Il vous arrive un homme de talent et vous l'envoyez promener quand nous l'accueillons à bras ouverts. Doria sera foudroyée par l'article que nous venons d'entendre, dit Lousteau à Lucien. Tu vois, mon enfant, ce qu'est le journal? Mais ta vengeance marche. Le baron Châtelet est venu demander ce matin ton adresse. Il y a eu ce matin un article sanglant contre lui, l'ex-beau a une tête faible. Il est au désespoir. Tu n'as pas lu le journal? L'article est drôle. Vois, qu'on voit du héron pleurer par la sèche. Madame de Bargeton est décidément appelée l'os de sèche dans le monde, et Châtelet n'est plus nommé que le baron Héron. Lucien prit le journal et ne put s'empêcher de rire en lisant ce petit chef-d'œuvre de plaisanterie dû à Vernou. « Ils vont capituler, » dit Hector Merlin. Lucien participa joyeusement à quelques-uns des beaux mots et des traits avec lesquels on terminait le journal, en causant et fumant, en racontant les aventures de la journée, les ridicules des camarades ou quelques nouveaux détails sur leur caractère. Cette conversation, éminemment moqueuse, spirituelle, méchante, mit Lucien au courant des mœurs et du personnel de la littérature. « Pendant que l'on compose le journal, » dit Lousteau, « je vais aller faire un tour avec toi, te présenter à tous les contrôles et à toutes les coulisses des théâtres où tu as tes entrées. Puis, nous irons retrouver Florine et Coralie au panorama dramatique, où nous folichonnerons avec elles dans leur loge. » Tous deux, donc, bras dessus, bras dessous, ils allèrent de théâtre en théâtre, où Lucien fut intronisé comme rédacteur, complimenté par les directeurs, lorgné par les actrices qui tous avaient su l'importance qu'un seul article de lui venait de donner à Coralie et à Florine, engagé l'une au gymnase à 12 000 francs par an et l'autre à 8 000 francs au panorama. Ce fut autant de petites ovations qui grandirent Lucien à ses propres yeux et lui donnèrent la mesure de sa puissance. À 11 heures, les 2 amis arrivèrent au panorama dramatique où Lucien eut un air dégagé qui fit merveille. Nathan y était, Nathan tendit la main à Lucien qui la prit et la serra. « À ça, mes maîtres, » dit-il en regardant Lucien et Lousteau, « vous voulez donc m'enterrer ? Attends donc à demain, mon cher, tu verras comment Lucien t'a empoigné. Parole d'honneur, tu seras content. Quand la critique est aussi sérieuse que celle-là, un livre gagne. » Lucien était rouge de honte. « Est-ce dur ?» demanda Nathan. « C'est grave, » dit Lousteau. « Il n'y aura donc pas de mal, » reprit Nathan. « Hector Merlin disait au foyer de Vaudeville que j'étais échiné. » « Laissez-le dire et attendez !» s'écria Lucien qui se sauva dans la loge de Coralie en suivant l'actrice au moment où elle quittait la scène dans son attrayant costume.